Une berceuse pour qu'on puisse. Voilà. C'est pour vous endormir parce que je crois que là vous l'avez bien mérité, certaines, de dormir.
Une chanson.
Ah ouais, qu'une chanson. Mais ça, c'est fini, ils ne chantent plus ça les jeunes. Une chanson douce. Très modeste.
Ah, s'il y a quelqu'un qui peut
tenir
ses cheveux,
je
pourrais
allumer
les bougies.
Allez, pas là, non.
Moi, je dois avoir quelque chose.
Allumez le feu.
Merci.
Bon, bonsoir à tous. Merci d'être là, malgré les difficultés. Vous êtes l'allumeur de réverbère. Il faut un homme pour allumer le feu. Une femme, c'est bien aussi. Bonsoir et merci d'être là. Donc, Aude Pacalitier nous revient. Elle n'est pas venue l'année dernière, je crois, hein, Aude. Elle est venue en 2018. Et elle est venue régulièrement puisque c'est pour la 10e fois qu'elle vient à Arc-en-Ciel, Vichy. Elle nous vient d'Allègre, dans la Haute-Loire. Oui, elle remonte au 15 juin 2018. Elle nous avait parlé du son qui ensemence la vie avec l'évolution du langage humain. Ce soir, le titre de sa conférence est « Le secret de la licorne, lumière du Verseau ». Nous venons d'entrer dans le Verseau. Depuis combien de temps? Bon. Aude a écrit beaucoup de livres, plutôt initiatiques. Tu en es à combien? De romans, de livres initiatiques, romans?
Je ne compte les livres, 18 livres, des pièces de théâtre, et j'écris le 19e en ce moment.
Et des DVD, bien sûr.
Et c'est une grande initiée qui reçoit de l'enseignement.
1m60, le bon. Grand initié.
Une petite initiée. petite en taille.
Très voilà. Petite initiée. Ça n'a pas d'importance.
Oui, elle a écrit les pièces du théâtre et elle fait aussi de la numérologie. Beaucoup de choses. Et, bon. Elle est formatrice en tarologie. Bon, elle a beaucoup d'atouts et guérisseuse, appui de science. C'est une enseignante de base, enfin, dans la société.
Et pourtant, je
enseignante.
Et pourtant, je ne m'appelle pas Trump, parce que Trump en anglais, ça veut dire atout.
Ça veut dire
atout. Vous ne saviez pas. Les atouts.
Les atouts. La force.
Trump.
C'est la force. Ouais. Hein? C'est un peu la force. Avoir un atout, c'est quelque chose qui...
Ah ben voilà, donc c'est ça. Mais je ne suis pas Trump.
Je suis dans le jeu. Dans le jeu, mais la vie est un jeu aussi. Hein. Voilà.
Bon, faut mieux prendre comme ça.
Elle a emmené quelques-uns de ses livres et elle se fera un plaisir de les dédicacer à la pause.
En seconde partie, donc Sylvie a remplacé au pied levé notre conférencière qui vient de Billon, Sylvie Chevalerias. Enfin, au pied levé, c'était quand même prévu depuis quelques temps. Et nous sommes très heureuses de la voir puisqu'elle avait, elle avait animé celle de mars, hein, juste avant le confinement. Notre Sylvie est là, présente. Je ne sais pas où elle est, là-bas. Donc, elle arrivera en deuxième partie. Qui viendra ce soir? Bon, mystère, hein, c'est eux qui décident. Alors, contrairement au bruit qui circule, qu'il ne faut pas les déranger, en général, ils sont heureux de pouvoir nous donner des nouvelles. Vers la fin de la médiumnité, elle concentrera. Sylvie prendra un temps pour ceux qui n'ayant pas eu de message auront des questions à leur poser. Hein, c'est ça, Sylvie? Ok. Vous avez une pause à 15 minutes environ et je ne sais pas s'il y a besoin de photos, Sylvie. Pas de photos. Bon, ceux qui veulent mettre des photos, mettent des photos. Bon, voilà. Nous avons appris pour la suite des événements que la laitie ne pouvait plus nous recevoir compte tenu des règles sanitaires. Voilà, donc je ne sais pas comment ça se passera pour le mois de novembre et décembre. Il n'y aura peut-être rien du tout, mais bon. On le fera dans la crèche. Voilà, on avait prévu, mais bon, espérons que ça va s'arranger. Merci de penser au petit groupe de prière. Vous savez qu'il y en a vraiment bien besoin en tout temps, mais particulièrement en ce moment. L'union de pensée du mois par la prière, la méditation, la pensée positive sera pour que la solidarité grandisse dans notre vie et à travers le monde. Donc, la petite voix d'aujourd'hui, si Madeleine veut bien venir la lire. Bonsoir. Entends ton amour et ta compassion à tous, non seulement aux âmes qui t'aiment, mais aussi à celles qui te détestent et t'utilisent avec mépris. Si tu élèves ta conscience et demeures dans un état élevé, tu pourras tout voir dans une perspective différente et tu t'apercevras que tu n'as aucun ennemi. Donc, n'endurcis pas ton cœur et n'aie pas le désir de rendre le mal pour le mal quand la vie semble contre toi. Sache simplement et accepte que je suis avec toi, que je te guide et te dirige et que tout est très très bien. Puis laisse faire et ne vois que le meilleur sortir de chaque situation. C'est lorsque tu veux bien faire cela que tu peux voir mes merveilles et ma gloire arriver. Et que tu peux savoir sans l'ombre d'un doute qu'avec tes seules forces, tu ne pourrais pas accomplir de telles merveilles. Par conséquent, élève ton cœur et rends-moi honneur et gloire. Bonne soirée. J'attendais encore. Donc la parole à Aude.
Voilà, eh bien bonsoir à vous toutes et tous. Je suis très très heureuse d'être ici aujourd'hui parce que justement les circonstances ne s'y prêtaient pas, pas vraiment. Et j'ai appris que, eh bien, à partir de ce soir, il y aura peut-être des conférences qui seront annulées ou du moins retardées. Donc, merci aussi à celles qui auront attendu bien longtemps pendant que nous dînions. Mais c'était vraiment très sympa à vous d'avoir été patiente. D'ailleurs, dans la vie, vous l'avez peut-être compris, il nous faut beaucoup de patience. Je veux juste vous dire deux mots de cette année 2020, pas trop, hein, mais pour vous montrer que cette année 2020 est très particulière. C'est véritablement la porte vers le Verseau. C'est pas du tout ce que je dis d'habitude, puisque cette conférence, quand je la fais, c'est pas toujours en 2020. Mais il se trouve que cette année est tout à fait particulière par rapport aux vibrations et aux nombres. Quand vous entendez 2020, vous voyez déjà un peu comme une porte qui s'ouvre à deux battants. Mais cette porte ne s'ouvre pas facilement parce que c'est une année 4. Il y avait une année universelle 4, puisque ça fait 2 et 2, 4. Mais plus encore, si on va un peu plus loin, ça fait 40. Or, 40, vous le savez certainement parce que vous avez lu la Bible ou le Nouveau Testament. 40, c'est le nombre de l'épreuve. C'est même 40, c'est le nombre, je dirais, du confinement. De, quand on est...
comment ?
Voilà, c'est le nom de la quarantaine. Vous voyez ? Vous vous souvenez que, d'avoir lu que dans les bateaux, quand il y avait beaucoup de peste, et Dieu sait qu'il y en avait souvent, eh bien, on laissait les bateaux au large, en quarantaine, pendant 40 jours. Voilà. Donc, vous voyez que cette année 2020, pour la première fois, elle va se manifester par une quarantaine d'au moins 4,5 milliards d'habitants, ce qui est absolument nouveau sous le soleil. Donc vous voyez que ceux qui connaissent un peu la numérologie, il y a quelques vichysois qui l'ont fait avec moi, vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte justement de ce que signifiait cette année. Voilà. Donc il ne faut pas s'étonner, mais rassurez-vous, l'année 2021 c'est du 5, le 5 c'est la liberté. Alors, chacun prendra sa liberté à sa façon, même s'il y a encore des lois. Ça sera cette fois une liberté intérieure. Et c'est là-dessus, justement, que je commence cette conférence, par rapport à ce que vous voyez sur l'écran, et qui est la dame à la licorne. La dame à la licorne est une tapisserie qui a été découverte par Georges Sand dans le château de Boussac. Boussac, c'est dans la Creuse. Ouais. Elle était venue voir les châtelains ou quelqu'un, et elle a remarqué ces magnifiques tapisseries qui sont au nombre de 6. Et je vous parle du 5 tout à l'heure, ben c'est quand même assez intéressant, parce que 5 tapisseries plus une, c'est la plus une que vous avez là. Le 5, c'est quoi en numérologie ? Mais non seulement en numérologie, je dirais sur le plan cosmique. C'est le nombre de l'homme. De l'homme qui, enfin, sait se servir de ses 5 sens. Vous voyez ? 5 sens. Nous avons 5 sens. Et notre vie sur la Terre a été décidée par la conscience universelle pour que nous puissions nous servir véritablement, correctement de nos 5 sens. Donc, vous voyez, c'est à chacun d'entre nous de voir s'il y a des abus dans la façon dont nous nous servons des 5 sens, le goût, le toucher, l'ouïe, la vue, etc. Voilà. Ou bien si nous sommes en harmonie avec nos 5 sens. Et à ce moment-là, nous pouvons nous appeler, je veux dire, nous aussi, des dames et des messieurs aussi à la licorne, parce que vous savez, autrefois, on ne faisait pas la différence entre le masculin et le féminin, pour la bonne raison que nous avons exactement le même travail à faire les uns comme les autres. Donc ici, vous avez la sixième tapisserie. Vous pouvez voir d'ailleurs les 6 à Paris, au musée de Cluny. Peut-être certains d'entre vous, y a-t-il des gens qui sont allés au musée de Cluny ? Oui, très bien. Elles sont exposées toutes les 6. Et je vous dis que ça a été terrible pour ces tapisseries, parce qu'elles étaient dans un château humide. Et tout le bas des tapisseries était plus ou moins pourri. Donc Georges Sand a eu pitié de ces tapisseries. Elle en a trouvé la merveilleuse valeur. Et elle a demandé à Prosper Mérimée de dégager de l'argent pour, je dirais, prendre les tapisseries dans ce château et pouvoir leur donner de l'argent. Voilà. Parce qu'évidemment, elles ont de la valeur. Alors, elles ont de la valeur. Pourquoi ? Parce que nous avons ici véritablement l'ouverture vers le Verseau. Cette fameuse ère zodiacale dont on vous rebat peut-être les oreilles depuis longtemps, on vous dit oui, c'est l'ère du Verseau. Avant, c'était l'ère des poissons, on en sort, maintenant c'est celle-là, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et comment les anciens arrivaient-ils d'une certaine façon à symboliser, à matérialiser, à manifester ces énergies ? Eh bien, vous en avez ici une réponse. C'est-à-dire que notre monde cosmique, celui que nous connaissons évidemment, ne parlons pas de ce qui s'est passé il y a des milliards d'années, nous avons déjà bien à faire avec ce qui se passe maintenant. Dans notre monde tel qu'il est, je dirais, rené après la chute de l'Atlantide, nous sommes en train de vivre un nouvel éveil. Ça ne se voit pas tellement, c'est vrai. Mais c'est bien pour ça, voyez-vous, que l'Atlantide, qu'est-ce que c'est qui a précipité l'Atlantide ? Un soir de juillet, le 23 juillet 9772, quelque chose comme ça, vous m'excuserez pour les détails, ce 23 juillet-là, l'Atlantide s'est effondrée dans la mer et a causé un tsunami terrifiant qui s'est appelé le Grand Déluge. Donc, depuis lors, on nous a remis une mission, la conscience divine nous a remis une mission. Reprenez les choses à l'endroit où les Atlantes l'ont laissé et allez vers une initiation merveilleuse, divine, une foi, et je dirais même une unité qui est en train, hélas, de nous montrer que nous ne l'avons pas obtenue. Donc vous voyez, cette année 2020 aussi, pour moi, elle a consisté à entrer très fort avec le confinement dans l'intérieur, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Et j'ai bien senti en écrivant ce livre que nous étions exactement dans les mêmes circonstances que l'Atlantide quand elle s'est écroulée, effondrée, submergée. Et pourquoi ? Il y a donc 12 000 ans, quand ce malheur, cet énorme malheur est arrivé, il y avait dans le ciel, ce qu'on appelait à l'époque la ceinture des 12, c'est-à-dire les 12 grands signes du zodiaque, que vous connaissez bien forcément, il y avait dans le ciel une configuration tout à fait spéciale, c'est-à-dire que le soleil était entré dans le signe du lion. Mais toute figure, tout signe zodiacal a toujours un complément. Et le complément du lion, c'était le Verseau. Vous n'avez qu'à regarder en astrologie, vous avez toujours des axes qui sont opposés et complémentaires. Ça veut dire que quand le soleil est entré dans le signe du lion il y a 12 000 ans, le cataclysme n'a pas eu lieu tout de suite. Le soleil a eu le temps d'entrer dans le signe du lion. Mais à un moment donné, c'était plus possible. Il a fallu, l'horreur de ce que vivaient les Atlantes, les vices, la technologie. Vous savez, ils connaissaient le nucléaire. Ils savaient voler dans les airs. On n'a même pas encore atteint leur technologie, vous voyez. Ils savaient voler, si je peux dire, sous l'eau. C'était un peuple mais d'une remarquable technologie. Et à un moment donné, leur technologie est arrivée tellement loin qu'elle a été destructrice. Regardez ce qui se passe en ce moment. Nous sommes en train de détruire la Terre. Regardez ce qui se passe. Je vous ai dit, Lion-Verseau. Le lion, c'est le côté yang de l'axe. C'est la chaleur. C'est la sécheresse. C'est le lion assis et qui regarde la vie se dérouler devant lui. Mais le Verseau, alors vous allez me dire, mais le Verseau, c'est quand même plutôt des ondes. Mais vous voyez un peu ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. C'est que le signe du Verseau a une double
je dirais, une double fonction. Il est verso, c'est-à-dire l'air des Andes, bien sûr, vous êtes verso, ça veut dire que vous êtes d'un signe d'air, nous sommes bien d'accord. L'air, ben, c'est une onde, c'est une énergie. Mais il y a deuxième, quelque chose de caché derrière, c'est le verso. Or, vous voyez que feu et eau, nous avons la terre qui brûle, ça brûle partout, et à côté de ça, hélas, l'eau est partout. Donc, vous voyez qu'actuellement, nous sommes, je dirais, appelés à véritablement regarder ce qui se passe en chacun d'entre nous. Alors après, évidemment, vous me direz, mais c'est pas ma faute, il y a le gouvernement, il y a ci, il y a ça. Certes, bien sûr, on les a mis là, hein. Mais ce qui est important, c'est de voir ce qu'il y a en chacun d'entre nous. C'est le moment de faire un grand ménage. Et ce ménage, il va être fait grâce à la planète Pluton. Oui, vous allez me dire, l'astrologie, moi j'y connais rien. Non, moi non plus. Mais quand même, je connais au moins ces quelques petites, je dirais, amusettes. C'est que actuellement, Pluton est encore pour 4 ans dans le signe du Capricorne. Or, le Capricorne est un signe de terre. Autrement dit, toutes les manifestations des lois, tout ce qui est argent, financier, matériel, voilà, le Pluton est en train de détruire toutes ces structures parce qu'on l'appelle le miroir de justice. Voilà son nom. C'est le grand révélateur, c'est celui qui nous oblige à pénétrer jusqu'au fond de nous-mêmes. Vous voyez ? Donc, Pluton est encore dans le signe du Capricorne pendant 4 ans. C'est-à-dire que pendant 4 ans, nous avons un sursis qui nous dit « Attention, regardez bien ce qu'il y a en chacun d'entre vous et n'allez pas regarder ce qu'il y a dans la poche, dans la maison du voisin. » Chacun doit s'être maintenant balayé devant sa porte parce qu'en 2024, Pluton entre dans le signe du Verseau. Mais ça veut dire plusieurs années. C'est bien sûr qu'il entre dans le signe du Verseau une fois par an pendant un mois. Moi, je vous parle de plusieurs années, d'une dizaine ou deux, peut-être 15 ans, vous voyez. Et alors là, je vous assure qu'à ce moment-là, eh bien, nous aurons peut-être des révélations et nous devrions être prêts, tous, chacun, à faire face à ces révélations. Donc, vous voyez ici, cette dame à la licorne, c'est véritablement un travail alchimique, un travail prophétique. Parce que nous avons ici, effectivement, la licorne, de chaque côté de cet être, qui est l'éternel féminin ou masculin, ça n'a aucune importance, nous sommes tous concernés. Et de l'autre côté, nous avons le lion. Donc, nous avons le yang, enfin le yin et le yang. Et ça n'est pas d'hier, parce que si cette tapisserie a été faite, je ne sais plus dans quelle année, je ne me souviens plus de la date exactement, elle continue, si vous voulez, à symboliser ce que les anciens savaient très bien. C'est-à-dire que, de temps en temps, le ciel... Alors, je ne sais pas comment vous allez dire ça, que ce soit le grand architecte, que ce soit le grand horloger, que ce soit Dieu, que ce soit la conscience universelle. De temps en temps, nous avons des figures dans le ciel. Et ces figures sont ce qu'on appelle des croix fixes. Chaque fois qu'il y a eu des croix fixes dans le ciel, avec les planètes évidemment, il y a eu des changements incroyables. Or, en 1999, il y a eu une éclipse totale de soleil, vous vous en souvenez bien. Et dans cette éclipse de soleil, il y avait la croix fixe de la fin des temps. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y avait Verseau lion et il y avait taureau scorpion. Voilà, mais carrément, vous voyez, une croix fixe. Alors, ceux d'entre vous, vous n'êtes pas obligés de me croire, hein, ça je vous l'ai toujours dit, ne me croyez pas même, si, mais... Investiguez, informez-vous. Et vous allez voir que quand même nous étions en 1999. Hein? Donc, bien peu de temps après, vous savez qu'on avait craint le bog de l'an 2000.
Mais ce n'est pas ce bug-là qui s'est produit. C'est qu'en réalité, l'humanité était ce jour-là amenée à faire un choix. Soit l'amour universel grâce à l'axe Lyon-Verseau, soit tout ce qui était, je dirais, amour charnel, sexualité débridée, toutes les formes de pornographie, de pédophilie, etc. Et aussi les technologies telles qu'elles ont fleuri depuis. Donc vous voyez que ce jour-là, ceux qui connaissaient les choses savaient que l'humanité était appelée à un choix drastique. Et on était bien obligés ce jour-là de choisir. Mais notre inconscient collectif a fait que la plupart des gens n'ont absolument pas saisi l'occasion de changer. Vous voyez ? Donc, vous comprenez bien que cette tapisserie, en réalité, c'est un avertissement qui nous est donné, nous dire attention, les axes dans le ciel, Verseau Lion ou Taureau Scorpion, ça n'est absolument... Alors là, vous ne voyez pas celui-là, l'autre Taureau Scorpion, vous ne le voyez pas, mais il y était. Consultez des astrologues et ils vous le montreront vraiment. Donc, que signifiait finalement, en plus, la licorne ? Y arriver, je ne me suis jamais éloignée de ma licorne, rassurez-vous. Mais il fallait quand même bien que je fasse une petite introduction pour mieux que vous compreniez. La licorne va représenter, comme le lion aussi, mais la licorne va représenter justement l'initiation. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est encore que ça, l'initiation ? Eh bien, c'est être initié, c'est intégrer les connaissances et la vérité. Les vérités universelles, évidemment. Je ne vous parle pas du théorème de seulement de Pythagore, bien que Pythagore ait été un grand initié, mais d'intégrer en nous les vérités, les connaissances. Et c'est ce qui se passe aussi avec le fameux Verseau. Vous voyez, ils sont liés de toute façon, on ne peut pas les séparer. Hein. Donc le Verseau, ce n'est plus seulement des ondes, mais c'est aussi des eaux, mais pas n'importe quelles eaux. Ça peut être des eaux telles qu'on les voit quand ça vient de se passer dans le Verdon, vous voyez. Ça, ces eaux-là, elles sont visibles. Mais ça peut être aussi, dans cet axe-là, les eaux de la connaissance. Comme, si vous voulez, l'humanité actuellement était invitée à vivre un nouveau baptême, vous voyez. Nous sommes tous invités à un nouveau baptême. Mais c'est un baptême spirituel. Et on nous donne on nous envoie des annonces, on nous envoie des avertissements, mais nous ne voulons pas les écouter. Donc là, vous voyez, 4 ans encore avant que Pluton, le grand destructeur, mais aussi celui qui arrange tout, qui détruit ce qui doit être détruit, avant d'entrer dans le signe du Verseau. On est déjà entré malgré tout dans l'ère du Verseau depuis quelque temps. Donc la licorne va représenter cette initiation. Est-ce que vous avez déjà entendu dire, ou lu peut-être, qu'un initié doit commencer son initiation déjà dans l'obscurité ? C'est-à-dire que autrefois, et puis même d'ailleurs de nos jours, quand un être humain se sent appelé vers la spiritualité, il ne va pas aller dans les boîtes de nuit. Non. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se retirer. Il va descendre en lui-même. Il va descendre dans la nuit profonde de ce qu'il est. Et c'est là qu'il va trouver tous ses démons, ses dragons, c'est ce que nous allons voir ici. Vous voyez ? Nous sommes toujours, dans notre vie, écartelés entre la licorne, c'est-à-dire notre désir profond, notre aspiration à une vie spirituelle, à la pureté, à l'amour, avec un grand A, même le petit A est pas mal non plus, voilà. Mais nous avons aussi en nous nos dragons à vaincre. Cette image, je trouve qu'elle est extrêmement symbolique, parce que nous voyons bien, là aussi, il tourne en rond. C'est un peu comme le Tao. Hein, la lumière naît de l'obscurité, mais elle peut retomber dans l'obscurité sans fin. Et ça, c'est ce que nous faisons actuellement, enfin, vous, nous, tous, moi, on est là, si on est là, c'est parce que notre roue infernale dure déjà depuis des milliers d'années, par nos réincarnations. Vous voyez ? Notre licorne, elle s'éveille souvent en nous. On a des moments de bonté, on a des moments d'amour, de compassion, de solidarité. Et puis, nous retombons dans notre égoïsme, dans nos égoïsmes, nos méchancetés, nos mensonges, vous voyez ? Et c'est ainsi, c'est une espèce de roue sans fin. Eh bien, actuellement, il est demandé que cette roue s'arrête et que nous fassions, encore une fois, un choix. Ça ne veut pas dire que le dragon soit méchant. Ce n'est pas le mal. Le mal, c'est ce qui n'est pas encore lumière. Qui nous empêche de mettre de la lumière dans nos dragons ? Et qu'au lieu qu'ils crachent du feu, ben, ils crachent de belles paroles et qu'ils crachent des belles énergies. Vous voyez ? Ça n'est pas inéluctable. Donc, si la licorne représente une initiation, elle représente l'initiation yin, celle qui permet d'entrer dans notre propre matrice, si on peut dire. Et cette initiation, elle se fait dans l'intérieur, dans la nuit. Voilà pourquoi la licorne est l'animal qui est représenté chez les Celtes, vous voyez, les Celtes déjà, représentait l'animal, l'initiateur de la chandeleur. C'est-à-dire au moment où la nuit, les nuits profondes vont tout doucement laisser apparaître l'espoir du printemps. On en est encore loin, le 2 février. Mais depuis l'épiphanie, eh bien, la lumière, petit à petit, revient. Mais cette lumière, vous voyez, il faut aller la chercher au fond de nous. Elle n'est pas donnée de l'extérieur. Quand on est dans la nuit de janvier et février, ce n'est pas cette lumière-là qui nous est donnée, celle du soleil. C'est la lumière intérieure qu'il faut que nous fassions naître. C'est une renaissance, vous voyez. Donc, la licorne représente exactement la chandeleur, donc le mois de février, le mois les plus, finalement, où on aspire, vous voyez, on aspire au printemps de tout notre cœur. On en a assez de cette obscurité. Mais évidemment, il faut la nourrir, cette aspiration, et pas aller de nouveau faire n'importe quoi. Donc voilà pourquoi, chez les Celtes, la chandeleur était reliée à la licorne. Et c'est pour ça aussi que la licorne est un être blanc, pelage blanc. Et elle est, elle aussi, je dirais, reliée à une sainte que vous ne connaissez peut-être pas forcément, Sainte Brigitte de Kildare. Est-ce que vous avez entendu parler de Sainte Brigitte de Kildare ? C'était la sainte la plus importante d'Irlande. Alors, vous voyez, l'Irlande, on s'approche un peu du polaire là-haut. Hein. Sainte Brigitte de Kildare était considérée comme la mère primordiale. Si vous vous appelez Brigitte, quelqu'un ici, qui s'appelle Brigitte ici ? Ah, on a une Brigitte. Eh bien, Brigitte, Birgit en allemand, c'est simplement la mère, la grande mère, celle qui porte dans son sein, c'est-à-dire dans l'obscurité de sa matrice, qui porte tout l'espoir du monde nouveau. Vous voyez ? Donc, vous comprenez maintenant pourquoi la licorne a été pendant des siècles et peut-être même des millénaires, elle a été un symbole extraordinaire. Les Tibétains en avaient fait leur animal favori parce qu'ils voyaient en elle, justement, la lumière divine qui allait venir régénérer l'humanité. C'est-à-dire, avant le printemps, eh bien, la terre n'avait pas l'air tellement réveillée, souvent même il y avait de la neige, voyez, la neige, la couleur blanche. Il y avait même du gel. Les mois de février ne sont jamais pas toujours bien sympathiques. Mais la licorne, avec sa corne torsadée, et celle-ci en a une vraiment assez énorme, eh bien, la licorne représentait la lumière divine pénétrant les terres nouvelles. Voilà. Donc, on estimait que cet animal avait été, je dirais, le symbole du printemps qui allait revenir, mais un printemps encore lointain. Un printemps qu'il fallait, je répète, nourrir d'amour et de patience. Ce que, malheureusement, les êtres humains, maintenant, ne savent pas faire. Vous voyez bien ce qu'on veut nous faire après nous avoir envahis d'ondes de toutes sortes. On est en train de nous en coller une encore pire. Voilà. Comme si nous avions besoin, nous. Vous vous rendez compte, hein, le paradoxe de notre monde. Nous sommes à l'époque de Pluton, qui nous demande d'entrer en nous-mêmes, de ralentir, d'aller voir qu'est-ce qui se passe, comment je peux voir mon dragon, bien le regarder, ce dragon. C'est vraiment son travail de Pluton. Regardez vos dragons. N'en ayez pas peur, n'en ayez pas honte. Regardez-les en face, les yeux dans les yeux. Et pour ça, il vous faut du temps. Et en même temps, que fait la technologie ? On nous colle de la 5G, de la Wi-Fi. Je ne vais pas faire une diatribe là-dessus, mais enfin, vous voyez. C'est-à-dire qu'on nous force, d'une certaine façon, à sortir de nous-mêmes, de façon à ce que nous ne puissions absolument pas faire ce travail de régénération qui demande du temps. Il y avait aussi un dieu dans l'Antiquité, je vous en ai parlé une fois où j'étais venue, Osiris. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images d'Osiris, il est blanc. On l'appelle le dieu noir, et pourtant il est vêtu de blanc. Et bien, attendez là, c'est paradoxal. Non, parce que Osiris représente les forces profondes, les forces nourricières de la terre, qui vont justement s'éveiller dans ce blanc. Il est le dieu des morts, mais en même temps il est le dieu des vivants. Vous voyez ? Donc, nos anciens, qui n'étaient pas intelligents, évidemment. Ça, c'est sûr que par rapport à l'homme du 21e siècle, c'était des retardataires. Hein. Mais nos anciens, ils avaient tout compris. Ils savaient qu'on n'est pas là sur la Terre pour aller à 1000 à l'heure, créer des machines qui vont nous amener là où l'Atlantide a péri. Là où elle a péri. Soyons clairs, il y a 12 000 ans. On connaît même le jour exact. Et ce jour exact, vous allez me dire, mais comment on peut le connaître ? Eh bien, on le connaît grâce au planisphère de Dendera. Je parle d'ailleurs beaucoup de Dendera dans mon dernier livre, surtout. C'est à Dendera que sont arrivés les survivants de l'Atlantide. Et ils ont amené avec eux des connaissances, mais des connaissances qu'ils ont reprises un peu sur un autre modèle, de façon à éviter tout de suite des cataclysmes. Donc ils nous ont apporté quelque chose, ils nous ont dit quand même faites attention. Et ça fait 12 000 ans, et vous voyez, nous en sommes exactement au même point. Donc cette licorne, c'est ça. C'est notre lumière intérieure qui devrait, je dirais, ensemencer de la lumière nouvelle sur la Terre, et pas la détruire, voyez ? Aidé en cela par le Verseau, qui, si il n'est pas celui qui déverse de l'eau et des tempêtes, je le répète, va verser dans les âmes, tout simplement, la lumière de la connaissance. Vous voyez ? Ne le croyez pas que ce soit une invention ou que, un fantasme de ma part. C'est quelque chose qui vient du plus profond des âges, et qui nous apporte cet avertissement ultime. Ou alors, acceptons l'inéluctable, si vous voulez. Voilà. Et ce qui n'est quand même pas vraiment ce qu'on voudrait. Revenons à notre licorne, puisque tel était, malgré tout, le titre de la conférence. Qu'est-ce qu'était cette lumière ?
cette lumière du Verseau, cette lumière du Verseau, oui, celle qui est allée, je dirais, engendrer, le, non, c'est pas le mot, pénétrer, c'était la lumière pénétrante dans la terre encore gelée. Nous sommes tous, quelque part, des terres gelées. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tant que nous n'avons pas cette illumination, ce désir vraiment, cette aspiration à la lumière, nous sommes des terres gelées. Et la licorne, justement, elle était là pour apporter, avec sa lumière naissante, pour dégeler ces terres. Mais regardez ce qui se passe en ce moment. Regardez ce qui se passe dans l'Arctique. Il y avait encore une émission il n'y a pas longtemps. En Sibérie, dans l'Arctique, les terres sont en train de dégeler. Le permafrost est en train de dégeler à une vitesse incroyable en Sibérie, entre autres, et tout autour du cercle arctique. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va libérer, ça libère déjà, on n'en parle pas, des geysers de méthane. Pour les gens qui ont fait de la chimie, c'est CH4. On dirait, moi non plus, j'y connais rien, mais enfin, je sais que ça par cœur quand même. CH4, c'est-à-dire quelque chose qui est bien plus terrible que le CO2. On nous fait un bazar fou avec le CO2, mais le méthane, c'est véritablement le CO2 de notre air. Oui. Donc, les terres arctiques sont en train de dégeler. Et Pluton est en train d'essayer de nous dégeler aussi, de façon à faire naître en nous quelque chose de nouveau qui est enfoui depuis des milliers d'années. Mais ça ne sera pas ce qu'on est en train d'éterrer en Arctique, ça ne sera pas quelque chose de bon. Hein. Mais voyez, cette histoire de dégel. Voilà. Donc, ce qui est demandé par rapport à la licorne, enfin, je veux dire, par l'intermédiaire de la licorne, c'est la pureté. C'est la chasteté. Non mais, je ne rigole pas. Hein. La chasteté faisait partie de l'histoire de la licorne. Seule une vierge pouvait approcher la licorne. Et quelquefois, les licornes ont été chassées. Vous allez me dire, elles n'ont pas existé. Si. Quand un chasseur chassait une licorne pour la tuer, que faisait la licorne? Elle venait se mettre dans les mains, dans les bras d'une vierge. Qu'est-ce qui m'arrive là? Oh, mais j'ai dû m'appuyer sur le bouton.
Est-ce que tu veux boire? Est-ce que tu veux boire?
Non, tout à l'heure. Voilà, ça y est? Voilà. Donc, vous voyez, tout ce qui concerne la licorne tourne autour de la pureté, de la chasteté, de la naissance, parce qu'elle protégeait les femmes enceintes, oui, aussi. Et elle aidait aux accouchements. Si on pouvait posséder un petit bout de corne de licorne, ce qui n'était quand même pas très fréquent, eh bien, on ne risquait pas d'avoir un enfant malade ou autre chose, il était bien portant. Donc, vous voyez, la licorne, pureté, chasteté, lumière nouvelle. D'ailleurs, c'est amusant, oui, savez-vous quelle était l'appellation qu'on donnait à la licorne? Verge frontale. Verge frontale. Vous voyez? Donc, c'est effectivement... elle est quand même très... Elle fait, effectivement, elle est très yang. Elle est très... On a l'impression d'avoir un phallus, si vous voulez. Phallus, on l'appelait aussi phallus mystique. Donc, c'est bien là qu'on voit que c'était... sa corne était là pour engendrer, pour féconder. D'où, évidemment, l'aide qu'elle apportait aux femmes enceintes qui allaient accoucher. Bon. Mais ça n'était pas tout. Comme elle était très pure et qu'elle était le symbole même de la pureté, elle avait la possibilité de nettoyer les eaux polluées. Si elle trempait sa corne dans une eau polluée, eh bien, immédiatement, le poison disparaissait. Or, vous voyez, ce poison, c'est celui que nous portons tous un peu depuis la naissance. Ce sont nos mauvaises habitudes, ce sont nos récriminations, ce sont nos rancœurs, nos jalousies, tout ce que vous voudrez. Eh bien, la licorne avait le don de dissoudre tout ça, ces histoires finalement, le fameux dragon dont on parlait tout à l'heure.
Ouais.
Et ça avait tellement d'importance, alors qu'on dirait, tiens, mais ça n'existe pas une licorne. Eh bien, Marco Polo, vous avez tous entendu parler de Marco Polo, évidemment, et la route de la soie de l'époque, qui n'était pas celle des Chinois actuellement. Bon, Marco Polo dit qu'au Siam, c'est-à-dire la Thaïlande actuelle, il y avait des chasses à la licorne. Donc, effectivement, la licorne a existé. C'est-à-dire cette espèce de prolongement de son cerveau qui avait des dons de purifier tout ce qu'elle touchait. Si bien que même des gens d'église, ce qui peut paraître bizarre, eh bien, avaient une vénération pour la corne de licorne. Et certains endroits, comme à Saint-Marc à Venise, par exemple, eh bien, ils s'enorgueillissaient d'avoir un morceau de corne de licorne. Oui. Et l'évêque de Limoux dans l'Aude, se vantait d'avoir dans sa crosse un morceau de corne de licorne. Vous voyez ? Donc, c'est peut-être pas complètement faux. Hein. Il existait aussi, François Ier avait très peur d'être empoisonné, n'est-ce pas ? Donc, il avait soi-disant un petit bout de corne de licorne, et avant de goûter certains plats, eh bien, il laissait tomber sa corne de licorne dans le plat, et si la corne devenait toute noire, ça voulait dire que c'était empoisonné. Si la corne restait blanche, eh bien, tout allait bien, il pouvait manger le plat. C'est vous dire que vraiment, à la licorne est attribué tout le côté aspiration vers la pureté, cette aspiration que nous avons tous. Il n'y a pas un d'entre vous, même peut-être le pire cauchemar de serial killer, qui n'est pas en lui cette lumière primordiale, qu'il ne sait pas évidemment faire briller, au contraire, mais nous l'avons tous. Ça nous est donné par droit de naissance divine. Vous voyez ? C'est quand même quelque chose de magnifique. Et il existe encore quelque chose qui ressemble un peu à la licorne. Vous avez peut-être entendu parler des narvals. Le narval s'appelle la licorne de mer. Et elle a une espèce de grande... Oui, c'est pas une corne, c'est sa canine gauche. Sa canine gauche supérieure qui s'est développée de cette façon-là et qui, vous voyez, correspond d'ailleurs au cerveau droit, c'est-à-dire la créativité, la beauté. Vous voyez ? Donc, le narval, on peut en voir encore dans la mer, mais dans les mers du Nord, c'est-à-dire dans le côté froid. Et comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure, une initiation ne se fait pas dans la chaleur. Elle ne se fait pas quand on est tendu au soleil, déshabillé, à moitié nu, etc. La véritable initiation se fait dans la nuit noire, elle se fait dans l'intérieur de nous, elle se fait dans le froid. Et voilà pourquoi les premières civilisations qui ont vécu dans notre univers... Il y a en réalité sept grandes races qui représentent notre univers actuel. Bon, sept grandes races, vous allez me dire, c'est quoi ? Eh bien, c'est simple. Il y a la race polaire, la race hyperboréenne, la race lémurienne, la race arienne, lémurienne et atlante, la race arienne, et nous sommes en ce moment à la fin, là, maintenant, nous sommes à la fin de la cinquième race mère et nous sommes en train d'entrer dans la sixième race. Oui. Vous vous rendez compte un peu le challenge actuel de l'humanité ? Nous finissons l'année, la grande année zodiacale de 25 920 ans. Nous finissons l'ère des poissons de 2016 ans et nous terminons la cinquième race mère qui va donner naissance, ou pas, à l'homme nouveau, au monde nouveau. Vous vous en rendez compte actuellement de la responsabilité que nous avons chacun. Chacun. Et là, il ne nous sera fait aucun cadeau. Tant que nous ne dirons, c'est l'autre, c'est la faute de l'autre, moi, de toute façon, je ne peux pas, parce que je ne sais pas, parce que je suis trop faible, je suis trop si. Parce que quand nous aurons le jugement de Pluton, c'est chacun d'entre nous qui passera devant son miroir de justice, et pas le voisin, croyez-le. Vous voyez ? Donc nous devons véritablement réfléchir en ce moment à cet avertissement qui nous est donné par cet axe, eh bien, Verseau, Lion. Vous voyez ? Et il y a 12 000 ans, quand l'Atlantide s'est éteinte, a été submergée, c'était le Lion et le Verseau. On a fait un demi-tour de roue et nous sommes dans les mêmes circonstances. À part que, cette fois, nous pouvons véritablement entrer dans l'ère nouvelle si nous évitons les erreurs qu'ont fait les Atlantes, c'est-à-dire de sombrer dans les vices, dans tout ce qui est pédophilie, pornographie et j'en passe. Et vous savez qu'en ce moment, ça, c'est quelque chose de terrible. Il y a une recrudescence de pédophilie, de choses terrifiantes qui se passent par rapport aux enfants, par rapport au viol et tout. Nous sommes en train de régler quelque chose, et il faudrait que ça soit réglé le plus vite possible. Vous voyez, il n'y a pas encore longtemps, il y a eu des arrestations en masse en Allemagne. Je dis l'Allemagne, on ne vaut pas mieux, par rapport à des sites de pornographie et de pédophilie qui sont là, autour de nous. C'est-à-dire, vous voyez, c'est encore le massacre des innocents. C'est le massacre des innocents. Et ça nous sera tenu compte, je vous le dis. Protégeons nos enfants tant que nous pouvons, parce que c'est eux qui maintiennent encore cette impression de pureté, de pureté. Voilà. Bon, c'est un peu difficile de dire tout ça. On préfère peut-être entendre des belles choses. Vous préfériez peut-être que je vous parle de bien-être, comment maigrir, oui, comment, voilà, pourquoi pas, ben non, non. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez, on en est là, hein, bon. Alors je vous dirais, allez faire une thalasso, prenez de l'artichaut pour le foie. Moi je ne vous parle pas de l'artichaut pour le foie, moi je vous parle du cœur. Je vous parle de ce qu'il y a dans notre cœur et que nous avons tous. Même si nous avons des kilos en trop, nous avons le même cœur que ceux qui sont minces comme des baguettes. Ouais. Parce que là, à ce sujet-là, nous sommes tous égaux. Ouais. Et donc, je ne vois pas pourquoi aussi on juge tout le temps les gens sur l'apparence. Parce que le jour où nous passons devant Pluton, eh bien, je vous assure qu'ils ne regardent pas si nous avons des kilos en trop ou en moins. Et ça va venir d'ici 4 ans. Et c'est pour ça que 2020, moi, je pense quand même que ce confinement, il a été voulu. Par qui ? J'en sais rien. Ce coronavirus qui arrive là. Je pense, mais je le pense sincèrement, qu'il a été une merveilleuse opportunité pour tous ceux qui ont pu entrer dans le cœur d'eux-mêmes pendant ces 55 jours. Je le pense sincèrement. Moi, j'ai été très heureuse pendant ces 56 jours. Oui, j'étais dans des bonnes conditions. OK. Je n'avais pas des enfants autour de moi, je ne faisais pas de télétravail. OK. Je suis bien d'accord. Mais je pense que beaucoup de gens que j'ai interrogés après, d'amis, de Mandy, ça a été pour nous vraiment une prise de conscience. Pour d'autres, c'est vrai, ça a été un enfer. On est bien d'accord. Mais vous voyez, la licorne qui s'éveille et le dragon. Nous sommes toujours dans ces mêmes rotation. Vous voyez ? C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Hein ? Est-ce que, à ce moment-là, nous pourrions tous, je dirais, essayer de vivre ? Mais les quelques paroles qui nous ont été dites il y a 2000 ans, c'était pas des discours, c'était pas des bouquins, c'était pas des essais, c'était pas des évangiles, tout ça. Il y avait trois mots. Je suis la voie, la vérité et la vie. Or, nous sommes dans l'époque des fake news. C'est joli. Le mensonge dans tous les états, à tous les niveaux.
Et vous voyez bien qu'encore même pour cette histoire que nous vivons tous de coronavirus, on reçoit un jour une injonction, le lendemain, on recevra une autre. Donc, qui ment ? C'est bien le moment, justement, qui nous est donné à tous de savoir quelle est notre propre vérité. Notre propre vérité. Et vous voyez, le Bouddha, d'ailleurs, si je retrouve, je l'avais noté, mais c'est bien quelque part, le Bouddha, donc 500 ans, avant Jésus-Christ. Alors, pour vous dire, le Bouddha, c'est intéressant, vous ne le savez certainement pas, on l'appelait l'unicorne, et il s'appelait Echtiringa, en hindou. Echtiringa, ça voulait dire l'unicorne. Autrement dit, le Bouddha a été le premier unicorne, la première licorne connue sous son nom, parce que justement lui, il était venu pour apporter à la Terre, notre planète, il était venu apporter cette nouvelle lumière qui allait être confirmée 500 ans après par Jésus. Vous voyez ? Il a commencé déjà à nous préparer. Bouddha. Et après, évidemment, quand Jésus est venu, qu'il a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie », eh bien, il avait déjà été précédé. Donc, vous voyez que les choses ne nous arrivent pas comme ça. On est averti. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas suivre la voie ? Pourquoi on est toujours dans le mensonge ? Vous n'avez qu'à regarder, regardons chacun d'entre nous, hein, on est tous là, bon, chacun d'entre nous a ses petits secrets. Combien de fois mentons-nous dans une journée ? C'est intéressant. Et je sais que plusieurs fois, j'ai demandé ça. Eh bien, j'ai vu qu'il y avait quand même des gens qui n'avaient pas l'air très satisfaits d'eux, disons. C'est devenu normal. Je mens pour me sortir d'un pétrin. Je mens parce que ça m'arrange. Je mens parce que la vérité est trop dure à dire. Je mens parce que finalement, si je disais la vérité, il se passerait des choses terrifiantes autour de moi. Nous mentons à longueur de journée. Où est donc la parole si simple, la vérité ? Ben non. Et qu'est-ce qu'elle fait quand nous sommes dans la voie, quand nous ne sommes plus dans la voie, quand nous ne sommes plus dans la vérité, nous ne sommes plus dans la vie. Nous ne sommes plus dans la vie. Vous voyez ? C'était que trois mots. Et ils ont été prononcés il y a 2000 ans. Qu'est-ce qu'on en a fait ? C'est pas comme s'ils nous avaient dit « Ah, vous savez, attention, il faut que tous les matins, vous allez vous lever à l'aube, vous allez voir le soleil qui va apparaître, puis vous allez manger du riz complet, tous les jours, parce que vous savez, c'est comme ça qu'on va dans la voie, hein ? Et vous allez, si possible, faire des mouvements très spéciaux, vous allez mettre vos jambes derrière votre cou et y rester pendant une heure. » Vous voyez ? Il ne nous a pas dit ça. Il ne nous a pas dit ça. Il nous a dit, dites la vérité et vous aurez la vie. Oh, c'était bien trop simple. Parce que nous avons un mental, messieurs et dames, complètement vérolé, nous pourvu qu'on nous raconte plein de belles choses, plein de belles théories, là nous sommes contents, on a l'impression d'avoir fait du bon boulot. Mais des choses aussi simples, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse ? On n'en a rien à faire, vous voyez ? C'est grave, vous voyez ? Nous sommes véritablement partis très très loin des vérités primordiales. Mais elles sont toujours là. On n'a qu'à se pencher sur nous, entrer dans notre licorne intérieure et laisser passer le verso, c'est-à-dire cette eau des larmes, cette eau de la connaissance, vous voyez ? C'est pas bien compliqué quand même. Mais on n'y arrive pas. Eh non, on n'y arrive pas. Enfin bon, attendez. Je vais essayer de voir si je retrouve ce qu'a dit le Bouddha. Je l'avais marqué quelque part, mais c'est un peu dur. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ça. C'est un travail de longue haleine, là, vous savez, de faire cette conférence. Est-ce qu'on peut passer à l'image suivante. Je ne sais pas ce que ça sera. Ce sera une surprise.
Non, non, c'est pas ça.
Je sais, mais ça ne veut pas passer.
Ah non, il faut aller de l'avant. Voilà, alors, la licorne, je vous ai parlé tout à l'heure de la ceinture des 12, c'est-à-dire des 12 signes du zodiaque. Eh bien, cette licorne, elle existe véritablement, vous voyez ? Alors, elle existe dans un coin du ciel, mais elle est surtout visible au mois de février, puisque je viens de vous dire que c'était au moment de la Chandeleur. Donc c'est vrai que c'est la conférence que je vous fais aujourd'hui, vous ne pourrez pas aller vérifier directement dans le ciel. Mais là, je l'avais faite justement le 14 février à Lyon, c'est pour ça qu'il y a un autre titre, mais c'était la même. Et ce jour après, les gens ont été priés, ceux qui voulaient, d'aller voir dans le ciel les constellations qui étaient là. Eh bien, nous avons ici plusieurs constellations. Nous avons ici Orion. Vous reconnaissez Orion parce qu'il a 3 étoiles. Oui. Vous regardez le ciel de temps en temps. Vous connaissez Orion. Il y a 3 étoiles un petit peu penchées qui représentent le baudrier d'Orion. Orion était considéré comme le chasseur, le grand chasseur. Et à côté de lui, eh bien, il y a Procyon, c'est-à-dire le chien. Le chien, le petit chien. Et ici, on ne le voit pas, je le mets sur une autre image, nous avons le grand chien. Donc vous voyez, nous avons le chasseur avec ses chiens qui vient vouloir tuer la licorne. Et vous voyez ici la constellation de la licorne. Je dirais que Canis Minor, c'est celui-là, Canis Minor se maintient beaucoup plus loin, beaucoup plus longtemps dans l'année, se maintient jusqu'à l'été. Et c'est de là qu'est venue d'ailleurs canicule. La canicule, c'est quand on voit, quand le petit chien, c'est le Canis Minor, voilà. Eh bien, comme il arrive au moment où il fait souvent très chaud, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu tuer la licorne, ça s'est prolongé un peu plus, et c'est devenu la canicule. Vous voyez, comme quoi les mots que nous employons quelquefois sans savoir quel est leur sens réel. Voilà. Donc, vous voyez, cette constellation, alors évidemment, c'est une constellation, vous voyez bien, qui est très... Enfin, ce sont des traits, quoi. Mais il n'empêche que les anciens le savaient. Et c'est le gendre de Kepler qui a redécouvert cette constellation au XVIe siècle. On l'avait oubliée, on ne savait plus où elle était. Ben voilà, ça c'est intéressant si on veut, mais enfin, ça peut être amusant quand même de voir qu'elle existe vraiment. Mais elle n'existe, vous la verrez simplement, vous ne la verrez pas. Mais par contre, au mois de février, vous verrez Orion, qui est cette magnifique constellation qui fait presque tout le ciel. Oui. Donc, essayez de vous souvenir de ça. Et je n'ai toujours pas retrouvé mon texte. Mais c'est pas grave. Voilà. Alors, maintenant, est-ce qu'à ce moment... Comment ?
J'ai fait passer ça, c'est bon.
Ah oui, ben voilà. Oui. D'accord. Vous ne savez plus même que... Voilà. Vous avez bien le petit chien. Vous avez la licorne et on voit Orion là-bas avec les étoiles telles que vous les connaissez peut-être au moins de nom, comme Bételgeuse, Rigale. Et en prolongeant, quand on prolonge les 3 étoiles là, sur le bout de mon doigt, eh bien on arrive à Sirius et on voyait Sirius dans le dessin juste avant. Sirius, qui est l'étoile la plus brillante de notre ciel et qui était l'étoile qu'adoraient les Égyptiens et qui représentait la déesse Isis. Vous voyez ? On est toujours, et Orion représentait le Osiris. Vous voyez ? On est toujours, là encore, dans les anciens dieux. Dans les anciens dieux.
Ouais. C'est bon, ça.
Alors, est-ce que...
Pardon, ça. Il y avait ça.
Ah ben voilà. Ah ben, il m'en a... Oui, j'ai fait cette conférence le 14 février chez un monsieur qui avait tout un tas de petits documents et qui m'a dit « Allez, je te les mets pour tes prochaines conférences. » Donc, vous voyez, il m'en a fait plusieurs.
Alors, il y a encore Orion, le grand chien, la licorne, les gémeaux. C'est encore une autre façon de voir le cosmos, mais c'est quand même assez intéressant. Et celle-là, là, la licorne, vous ne la verrez jamais. Mais vous voyez, elle est quand même très... très stylisée. Merci. Merci de m'avoir dit le mot. Voilà. Alors, est-ce que, à partir de là, vous auriez, avant qu'on commence la deuxième partie, très intéressante aussi, est-ce que vous auriez des questions à poser ?
Je voudrais te dire, tu parlais de Kepler, ça ?
Oui.
Au XVIe siècle ?
Oui.
Donc, j'ai regardé la tapisserie à la licorne, c'est début du XVIe.
Le ?
Début du XVIe.
La tapisserie de la licorne, c'est début XVIe.
Voilà, ben, je savais. Voilà. Merci. Mais c'est bien, vous avez des... Mais pourquoi est-ce qu'on fait encore des conférences ? Vous avez... mais moi, je suis écœurée et admirative. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Vous n'avez qu'à regarder licorne, vous aurez tout sur vos tablettes. Oh non, mais vous savez... c'est... Non, mais je vous le dis franchement, je suis découragée. Je suis découragée. Je ne viendrai plus. Mais oui !
Ben, c'est vrai, vous avez tout, hein. Mais enfin, peut-être que de temps en temps, ça fait du bien de sortir un peu de chez soi. Bas les masques, on se sourit et c'est chouette. Voilà. Bon. Alors, vous n'avez rien... Alors,
si, il y a je termine cette partie-là de la conférence de façon assez amusante. Au Moyen-Âge, les chevaliers partaient à la croisade ou ailleurs. Et ils restaient très longtemps absents. Mais ils étaient mariés. Et comme tous les messieurs, que je ne nommerai pas, bien sûr, parce qu'ils sont les mêmes, ils veulent que leurs épouses restent chastes, pures. Bon. Alors, évidemment, il y avait une méthode, il paraît super, défiant toute concurrence.
Les ceintures de chasteté.
Qui est la ceinture de chasteté, mais c'était méchant, c'était, ça faisait mal quand même. Hein. Non. Il y avait quelque chose de beaucoup plus simple, mais beaucoup plus difficile à obtenir. S'ils arrivaient à avoir de la corne de licorne et de la broyer dans un liquide, n'importe lequel, peut-être, et en y ajoutant de la bave de dragon. Vous voyez qu'on revient à notre image tout à l'heure. Ils pouvaient partir tranquille, madame allait être d'une chasteté. Le tout, après, c'est de savoir comment il fallait, bien sûr. Mais vous savez qu'au XVIe siècle, puisqu'on en parlait tout à l'heure, Roselyne, du XVIe siècle, vous aviez un médecin qui s'appelait Ambroise Paré.
Ah, oui.
Tout le monde a entendu parler d'Ambroise Paré.
Tout à fait.
Au temps d'Ambroise Paré, les morceaux de cornes de licorne se vendaient à un prix fou. Comme maintenant les cornes de rhinocéros.
Oui.
Parce que non seulement ils protégeaient les femmes, mais comme c'était une verge quand même, eh bien, ça donnait aux messieurs aussi de la virilité. Voilà. Donc, on pouvait avoir une corne de licorne, ça remplaçait abondamment le Viagra. Voilà. Mais c'est peut-être plus facile d'aller à la pharmacie acheter du Viagra maintenant que de se procurer une corne de licorne. Et vous voyez que tout tourne vraiment autour de la sainteté, de la chasteté. Alors, vous allez me dire, mais enfin, le mariage, la chasteté... Mais attendez, on peut être marié et être dans de bonnes... comment dirais-je... Tout à fait dans l'axe Verseau-Lion. Je suppose que vous savez que nous avons des nadis. N-A, accent circonflexe, D-I-S. Les nadis, ce sont des circuits d'énergie qui partent de notre chakra racine, c'est-à-dire à peu près le périnée. Quand on vient au monde, on a ces deux nadis. Il y en a un, je ne sais pas si on dit un ou une, on va dire un. On a un nadi masculin et un nadi féminin. Ah. Alors, le nadi féminin s'appelle Ida. Eh oui, pourquoi pas. Ida. Et le nadi masculin s'appelle Pingala. P-I-N-G-A-L-A. Bon. Et ces deux nadis vont se vont monter dans la colonne vertébrale, se croiser une fois au niveau à peu près des gonades et une deuxième fois dans le cœur. Et la troisième fois, ici. C'est-à-dire le troisième œil. C'est-à-dire Ajna Chakra, si vous faites de la, du yoga. Donc, vous voyez que de nature, l'homme et la femme ont chacun leur nadi de l'autre sexe, si je peux dire. Autrement dit, nous sommes égaux face au Créateur. Et cette énergie qui vient, qui monte de chaque côté de notre colonne vertébrale, et qui vient ici sortir, enfin du moins se rejoindre dans cet endroit-là, qui s'appelle Shushuma Chakra d'ailleurs, eh bien, évidemment, les anciens le connaissaient très bien. Et si vous avez vu des images des pharaons, vous avez peut-être vu qu'ils ont ce qu'on a ici, un cobra. Un cobra, l'uréus. Vous avez vu ça. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'ils avaient atteint l'illumination. C'est-à-dire que ces deux nadis, le masculin et le féminin, avaient été, si vous voulez, étaient montés ensemble dans la gamme spirituelle. C'était donc croisé vers le sexe, enfin, oui, à peu près, et le cœur. Vous voyez donc que le sexe et le cœur, il y a vraiment, eh bien, une appartenance. Le sexe ne devrait pas être séparé du cœur. Et ils venaient se réunir ici, dans un endroit très étrange, que vous connaissez tous, qui s'appelle le thalamus. Mais ça veut dire quoi, thalamus, en grec? Ça veut dire lit, un lit. Ça veut dire que quand l'homme et la femme arrivent à faire monter ensemble leurs énergies en faisant l'amour, oui, disons les choses, c'est clair, ce qui est rare, il y en a toujours un qui est un peu en avance sur l'autre, hein? Et oui, parce qu'il y en a un qui prend l'amour pour un bon plaisir, et l'autre qui se dit, mon Dieu, je pense que je vais connaître l'extase divine, vous voyez, ils n'iront pas loin, ces deux-là, parce qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, mais ça arrive. Donc quand ça arrive, quand les deux nadis, les deux, donc ça fait quatre nadis finalement, les deux nadis qui sont chez la femme et les deux nadis qui sont chez l'homme, quand ces quatre nadis, en quelque sorte, vont monter ensemble et arriver ici dans le thalamus, eh bien c'est l'éclatement, c'est l'orgasme magnifique, c'est l'illumination, ce sont ce qu'on appelle les noces alchimiques. Et ça, les noces alchimiques, on connaît ça depuis les Égyptiens et bien avant. Parce qu'on le connaissait déjà du temps des Lémuriens et des Atlantes. Car les Égyptiens, pour montrer bien cette vérité, cette réalité, ils disaient que nous avons tous un soleil dans la tête. Vous voyez ? Un soleil dans la tête. Et vous devinez quel est ce soleil dans la tête? Alors, vous saviez que vous aviez tous ce soleil dans la tête? Non. Eh bien, c'est notre glande pinéale. Notre glande pinéale. Et c'est d'elle que je vais vous parler maintenant. Parce que là, vraiment, la glande pinéale, c'est la glande qui nous ouvre les portes du Verseau, c'est-à-dire ce baptême de la connaissance, ce baptême de la fraternité, la vraie, ce baptême de l'unité. Car les nadis, les quatre nadis, chacun ses deux nadis et l'autre, c'est quand ces quatre nadis arrivent en même temps à cette espèce de communion, de noces, eh bien, à ce moment-là, évidemment, l'homme devient divin. Et c'est ça qu'ont voulu, d'ailleurs, nous raconter les contes de fées. Mais je ne crois pas vous l'avoir faite, la conférence sur les contes de fées. Non, sur l'alchimie dans les contes de fées. Vous voyez, donc, les anciens savaient déjà que nous avons en nous la glande, le petit organe qui va nous permettre à chacun
de mériter ces noces alchimiques, c'est-à-dire de devenir des dieux, de redevenir des dieux. Vous voyez ? Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui s'en occupent. Et quand je vous disais tout à l'heure, avec beaucoup de douleur, que nous sommes dans le siècle de l'indécence, et que tout ce qui est sexuel est permis, nous sommes en train de nous éloigner de façon incroyable, mais j'espère pas irrémédiable, de ce qui est demandé aux êtres humains, c'est-à-dire cette purification représentée par l'axe verso-lion. Voyez que nous sommes bien mieux que ce que nous croyons. Nous ne nous faisons pas confiance. Nous n'imaginons pas que nous avons en nous tout ce qu'il faut pour devenir des dieux, c'est-à-dire des êtres illuminés, et non pas rester au ras des pâquerettes. Vous comprenez ? Ben c'est ça que je suis venue vous dire. On en est tous là. C'est cette fameuse bataille de la licorne et du dragon. Eh bien, essayons quand même d'être vainqueurs et d'être licorne plus que dragon, tout en ayant regardé nos dragons en face. Parce qu'il ne suffit pas de dire « Oh là là, moi, la licorne, j'ai compris, tout va bien, bon, mais les dragons, j'en ai pas. » Alors là, nul, vous ne réussirez à rien. Mais descendre dans ces dragons, les regarder dans les yeux, et pouvoir dire maintenant « Toi, je ne veux plus de toi, tu ne seras plus mon maître », chacun d'entre nous est capable de le faire. Chacun. C'est ça, la grande, si vous voulez, la grande victoire de l'axe verso-lion. Nous sommes tous appelés à ça. Et vous imaginez bien que ça n'arrive pas en regardant simplement la voisine en train de se chauffer au soleil, ou le voisin en train de aller ses biscottons. Ça demande quand même un petit peu autre chose. Voilà. Eh oui. Alors, je pense qu'il y a une autre image. Ah ben là, voilà. Donc, vous pourriez dire, mais c'est bien gentil de vous me parler de tout ça, mais c'est où cette affaire ? Dans notre... Cette affaire, ça existe. Et je me souviens, il y a quelques années, où je ne savais pas encore tout ça, mais je savais quand même que la glande pinéale existait, mais je ne savais pas trop ce qui se passait. Et j'avais demandé à un chirurgien ce qu'il pensait de la glande pinéale. Bon, il m'a dit, mais ça ne sert à rien, ce truc-là. Mais ça ne sert à rien. J'avais quelques doutes. Ouais, j'avais des doutes. Mais j'étais loin, quand même, d'imaginer ce que cette glande pinéale pouvait, à quel point elle pouvait changer nos vies et faire de nous des êtres enfin dignes d'être des êtres humains et pas des bêtes vouées à tous les vices et tout ça. Voilà. Donc, ici, donc cet ami à Lyon m'a fait aussi ce dessin. Il a été recherché lui aussi quelque part dans ses tablettes. Voilà. Eh bien, nous avons ici l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est-à-dire celui qui est au-dessous du thalamus. Et je vous ai dit, c'est ça. C'est le mot thalamus qui veut dire lit en grec. Donc, vous voyez, il y a vraiment un mariage. Il y a une alliance, hein, des énergies d'un homme et d'une femme. C'est possible. Il y en a qui sont arrivés. Bon. Et puis, vous avez ici le... nucleus chiasmatique, c'est-à-dire l'œil. Nos yeux, hein, sont reliés par ce qu'on appelle le nucleus chiasmatique, qui fait un Y et qui a une sorte ici d'un, voilà, et par là. Bon, le voilà. Mais nous avons ici c'est ici, je veux dire. Et puis nous avons la glande pituitaire, c'est-à-dire l'hypophyse. Voilà, l'hypophyse. Et après, qui est dans ce qu'on appelle la selle turcique, et ici, en violet, vous avez la fameuse glande pinéale. La glande pinéale, elle est située exactement au centre géométrique de notre cerveau. Si vous faisiez ça et ça, avec là, eh bien la glande pinéale, elle est juste là. Vous voyez d'ailleurs qu'en Inde, les femmes se mettent une pastille, là, hein. Comment ça s'appelle déjà ? J'ai oublié. Enfin bon, quand elles sont mariées surtout. Voilà. Eh bien, elles marquent par là qu'elles connaissent la glande pinéale. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles vont travailler dessus, mais c'est marqué ici. Voilà. Donc la glande pinéale, vous voyez, ressort ici à peu près à
cet endroit-là. Et c'est ce qui, en prolongement, évidemment, va donner la corne de la licorne. Vous me direz, c'est sûr que je n'ai jamais vu de licorne, j'en verrai peut-être jamais. Il existe pourtant, en Indonésie, un petit lézard, quand je dis petit, là-bas ils ne sont pas si petits que ça, un lézard qui a une excroissance sur la tête avec un œil au bout. Il est aveugle, mais il voit avec cet œil, vous voyez, comme une corne de licorne au fond. Donc ça, vous voyez que même chez le monde animal, il y a ce phénomène. Je ne sais pas s'il en existe encore beaucoup, mais ça existe. Voilà. Et puis nous avons ici, évidemment, le cortex cérébral, et ici nous avons le cervelet. Ce qui est amusant dans le cervelet, ça je le dis en parenthèse, c'est qu'il ressemble à une feuille de chêne. Voilà. Entre la matière grise et la matière blanche, ça forme une feuille de chêne. Or, le chêne, c'est évidemment l'arbre le plus, je dirais, puissant de la Terre. Et peut-être qu'effectivement, le chêne peut s'écrouler, c'est ce qu'ils font malheureusement souvent, mais le chêne, c'est l'arbre de Zeus, c'est-à-dire du maître des dieux, quand même. Hein. Voilà, donc voilà notre cerveau tel qu'il est ici. Voilà. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a une autre... Il devrait y en avoir une autre image. Ah ben voilà, tiens, d'ailleurs. Voilà donc le cervelet, voyez. Et on voit bien, quand même, que ça ressemble à une feuille de chêne. Hein, ça se voit bien, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a encore une autre image, parce que je ne m'en souviens plus. Voilà. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé des nadis, qui vont donc se croiser deux fois, une fois au niveau ici, derrière, bien sûr, colonne vertébrale ici, et vers le cœur. Et ça, vous connaissez bien cette image, c'est le caducé d'Hermès. C'est ce que les médecins ont pris comme emblème. Vous voyez ? Donc ici, vous voyez bien la colonne vertébrale, les serpents, voilà, donc on peut dire que c'est le niveau du cœur, et la glande pinéale. Alors, pourquoi la glande pinéale ? Parce qu'elle ressemble à une petite pomme de pin. Elle a la dimension chez un enfant qui vient de naître, qui est donc encore tout pur, tout nouveau, parce qu'il n'a pas encore eu le temps d'avoir quand même trop de problèmes dans ce monde. C'est à peu près la taille d'un grain de maïs. Mais avec le temps, cette glande pinéale s'atrophie. Et je comprends bien pourquoi mon chirurgien n'avait jamais vu la glande pinéale. Ça ne l'avait pas beaucoup frappé. Mais il y a plein de gens qui, au contraire, eux, s'en sont occupés. Donc cette glande pinéale, c'est elle qui est notre soleil dans la tête. C'est elle qui nous permet d'obtenir l'illumination. Vous voyez ? Et vous avez peut-être eu, d'ailleurs, quelquefois, vous-même, des moments où vous avez vu des espèces de flashs, mais vraiment de lumière, et c'était la glande pinéale qui voulait se réveiller. Et puis après, on pense à autre chose, et puis voilà. Mais si on pouvait véritablement se brancher, enfin vraiment faire un travail de méditation sur la glande pinéale, il y a bien des chances que la plupart d'entre nous pourrions, eh bien... La faire naître, enfin pas la faire naître puisqu'elle est là, mais je veux dire nous en servir, vous voyez. Donc la glande pinéale, que faut-il en dire? Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire sur cette glande pinéale, voyez-vous, parce que elle est mal connue, elle est même, je dirais, niée, et surtout, alors ça, par contre, voilà ce qu'a dit Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, vous savez, vivait au temps d'Hitler. Et c'était deux initiés, chacun à sa façon, l'un dans le mal, on peut dire, oui, et l'autre dans le bien. Et ils se rencontraient dans le monde astral. Et ils luttaient. Hitler voulait absolument détruire Steiner. Vous comprenez pourquoi ? Parce que Steiner, c'était la lumière, c'était la connaissance, c'était la pureté, c'était vraiment un être qui annonçait le XXe siècle. Hitler aussi, il était bien dans le 20e siècle, le 21e siècle, je veux dire. Hitler aussi, à sa façon, en détruisant. L'un voulait construire, l'autre voulait détruire. Donc, il y avait des batailles entre eux pour savoir lequel serait plus fort. Mais invisible. Il a essayé de le faire tuer plusieurs fois. Heureusement que ses amis ont été avertis assez tôt et ils ont pu le faire sortir d'une autre façon parce qu'il avait décidé de le faire mourir. Bon. Donc, Rudolf Steiner, c'est lui qui est à l'origine, vous savez, des écoles Waldorf, les fameuses écoles où on respecte beaucoup l'enfant. Où, vous en avez bien une quelque part, il me semble, dans l'Allier.
Non,
c'est pas comme l'Arche.
C'est pas
non.
C'est
du
côté de l'Arche.
Oui.
Ah,
non. Peut-être, non.
Non,
je crois pas que ce soit Samnou. Non. C'est, enfin, je sais qu'il y en a une dans votre...
Non, c'est pas Steiner, excusez-moi.
Et Steiner était un grand visionnaire. Il avait déjà travaillé, il avait déjà dit plein de choses sur les vaccins. Il avait déjà dit plein de choses sur les abeilles. Il avait dit que quand la dernière abeille disparaîtra de la Terre, il restera 4 ans à l'humanité à vivre. Pourra pas. Et il a dit la chose suivante. Enfin, du moins, je répète ce qu'il dit. Rudolf Steiner avait prévu qu'au début du XXe siècle, un mouvement conduit par les grosses entreprises consisterait à emporter l'âme des gens afin de les détacher du monde spirituel. Voilà, si vous voulez, je répète pour ceux qui écrivent. Non ? Voilà. Bon, alors, je répète. Il avait prévu qu'au début du XXe siècle, donc vous voyez, ça fait déjà un moment, un mouvement conduit par les grosses entreprises, ce qu'on appelle les lobbies, consisterait à emporter l'âme des gens afin de les détacher du monde spirituel. C'est en train de se faire sous nos yeux. C'est-à-dire que là, en ce moment, on ne respecte plus. Oui, eh bien, je veux bien que tu me fasses, dise le contraire, que tu me prouves le contraire. Est-ce qu'on n'est pas en train de détacher les gens du monde spirituel en ce moment ?
Certains.
Ah ben, oui, ah ben, évidemment. Mais je parle d'un travail de masse, massif. Parce que ces êtres dont parle Rudolf Steiner, et qu'il connaissait très bien, lui, la glande pinéale, il savait très bien à quoi elle servait, il savait très bien ce qu'elle représentait. Donc, ceux qui... Évidemment, il y a toujours des gens, heureusement, sur la Terre, il n'y a pas que des nobles, mais il y a tous ceux qui en souffrent aussi. C'est qu'il savait bien, lui, qu'on pouvait, je dirais, se servir de cette glande pinéale, ou du moins de l'anéantir plutôt. Parce que si les gens s'éveillaient à l'ère du Verseau, c'est bien ça, l'ère du Verseau représente l'âge d'or nouveau, eh bien on pouvait empêcher toute l'humanité d'entrer dans l'âge d'or. Dire, attendez là, c'est dément ce truc-là, comment est-ce qu'on peut faire ? C'est parce qu'il fallait bien connaître les applications, enfin je veux dire le fonctionnement de la glande pinéale. C'est ça. Si on connaît bien le fonctionnement de quelque chose, on peut soit l'amplifier, soit le détruire. Vous êtes bien d'accord ? Bon. Donc, la glande pinéale est la glande la plus... Comment je dirais ? La plus sacrée de toutes nos glandes. C'est elle qui est en, je dirais, rapport direct avec les êtres de lumière. Vous comprenez bien que si on ne veut pas qu'un peuple arrive à cet état de lumière, eh ben on va dire d'abord que la glande pinéale n'existe pas, qu'elle ne sert à rien. Et si possible, pour ceux qui voudraient s'en servir correctement, la détruire. Écoutez, c'est bien comme ça qu'on agit en général. Bon. Donc, qu'est-ce qu'ils savaient de cette glande pinéale ? Ils savaient... Ah, je croyais que vous... Il savait qu'elle fonctionne grâce à un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. Oui. La sérotonine va aider la glande pinéale à extraire, il y a un autre mot qui est mieux que ça. Bon, merci. À produire de la mélatonine. Mais vous êtes tous, vous savez tous ce que c'est que la mélatonine. Vous en prenez peut-être même pour dormir. Voilà, peut-être. Donc, vous voyez, il savait, Rudolf Steiner et tous ces gens de l'Antiquité, savaient que la glande pinéale fonctionne grâce à la sérotonine et qu'elle va produire de la mélatonine. Dire, la mélatonine, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'hormone du sommeil. Mais non seulement ça, elle a, je dirais, un rôle bien plus important, c'est la glande qui reçoit le plus de sang de toutes nos glandes. Il y a une circulation de sang dans la glande pinéale qui est extraordinaire. Vous voyez ? Donc, alors que nous, on ne sait même pas qu'elle existe. À part les reins, la glande pinéale reçoit qui est le plus irriguée, si vous voulez, à part les reins. C'est pas rien quand même, hein, quand on y réfléchit. Bon, donc la glande pinéale fonctionne obligatoirement la nuit. Donc, ce qu'il faut, si on veut, je veux dire, éveiller la glande pinéale, il faut dormir dans le noir. C'est la glande de lui sommeil dans le noir le plus total. Ah, vous me direz, moi je regrette, j'ai besoin d'avoir mes volets ouverts, je veux voir les premiers rayons du soleil, c'est votre droit. Mais vous ne fabriquez pas de mélatonine, c'est tout. Alors vous voyez, on en revient encore à la licorne. On en revient encore à cette initiation qui se fait toujours dans l'obscurité. Et que c'est de cette mélatonine que va venir l'illumination. C'est bien donc la lumière qui sort de l'obscurité. Vous voyez ? C'est le fameux Tao. On en revient toujours là. C'est une règle cosmique. Donc la mélatonine va se faire pendant que nous dormons. Mais elle a un autre rôle en plus. C'est elle qui régule tout le système sexuel de notre corps. C'est-à-dire, elle va être là au moment où la jeune fille et le jeune homme passent par l'adolescence. Les règles, tout ça, tout ce qu'on voit un jeune qui est en train de devenir adulte, eh bien, c'est la mélatonine, c'est la glande pinéale qui dirige ça. Vous voyez ? Donc, si on peut avoir de gros problèmes, des fois, dans les cycles menstruels, voyez, parce qu'elle travaille aussi avec les énergies de la Lune, si notre glande pinéale ne reçoit pas la quantité d'obscurité dont elle a besoin. Voyez. Donc, si on veut détruire dans une génération, si on veut détruire l'accession à cette lumière, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on va empêcher les gens de dormir. Non, non, mais regardez ce qui se passe, bon sang. Donc, des gosses qui, à partir de 8 ans, peut-être moins, vont passer une nuit devant leur... je ne sais plus comment ça s'appelle, même, leur tablette, leur... vous savez, les jeux et tout. Ces enfants sont voués à ne pas un jour avoir la possibilité, au moins à ce moment-là, de développer la glande pinéale, donc la mélatonine, donc d'accéder à l'illumination. Ça ne veut pas dire qu'on accède à l'illumination tout de suite, là, top, comme un interrupteur, mais ça veut dire que là, on les en empêche. Et que dire aussi des jeunes qui sont dans les boîtes de nuit, avec toutes ces lumières comme ça, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, celui-là, et puis c'est une lumière...
Les troposcopes.
Oui, dites-le tout fort.
Les troposcopes.
Tromboscopes, voilà. C'est ça, tromboscope. Ça, alors, ça détruit complètement la glande pinéale. Vous voyez ? Eh bien, allez dire ça aux jeunes. Eh bien, ils vous traiteront d'illuminés. Moi, j'aimerais bien remarquer. J'aimerais bien. Mais si on me traite d'illuminé, mais que je ne le sois pas, ça ne m'amuse pas. Mais si je le suis, je suis contente. Oui, ils vous diront, non, mais enfin, écoutez, vous êtes pire que les dinosaures, vous savez pas que les jeunes ont besoin d'aller danser, d'aller ici et ça. Oui, ils ont besoin, mais c'est un besoin qu'on a créé et qu'on maintient bien. Parce que, d'une certaine façon, quand on fait ça, on n'a pas du tout envie de penser à la glande pinéale et de réveiller. Vous voyez ? Nous sommes, je vous le dis franchement, et je suis désolée, nous sommes dans un état d'ignorance par rapport à notre propre être divin, qui est abominable. Moi, si je fais des conférences, c'est pour ça, pas pour autre chose. Si j'écris des livres, c'est pour ça. Parce que j'ai vécu, moi aussi, quand j'étais petite, dans un milieu où il n'y avait pas de connaissances, il n'y avait pas la télé, bien sûr, il n'y avait pas la radio, bref, à peine, je suis un peu dinosaurienne, vous le voyez bien, ma tête. Bon, ça, c'est clair. Donc, je ne suis pas née de la dernière pluie, parce que je n'étais pas vieille. Voilà. Mais il est certain que là, on avait quand même une vie beaucoup plus réglée, beaucoup plus lente, beaucoup plus... On vivait au rythme des saisons. Les gens se couchaient tôt. Et là, alors, regardez un peu le bazar que ça fait de faire le couvre-feu à 21h. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ça, si vous voulez. Ce n'est pas d'être d'accord ou pas être d'accord. C'est pour montrer qu'on a appris aux gens à vivre autrement, en décalage avec ce qu'on appelle le rythme circadien. Ça s'appelle comme ça. Circadien, ça veut dire autour du jour, tout ce qui se passe autour du jour. Ouais. On ne vit plus dans un monde régulé, on se prend pour des êtres évolués, alors qu'on est tout simplement en train de régresser. Sauf si, évidemment, on est content de ce qu'on fait. Et là, c'est le libre arbitre de chacun. Si, sachant ça, par exemple, ce soir, vous avez envie de continuer à faire comme avant, mais c'est votre droit le plus absolu. Mais ne vous étonnez pas, à ce moment-là, de ne pas vous éveiller spirituellement. C'est votre choix. C'était le fameux choix qu'il y avait le 11 août 1999 entre, dans la croix fixe, entre Lion, Verseau, et Taureau, Scorpion. C'était le choix. Et vous avez tout ce qu'il faut pour le choisir. Personne ne vous en voudra. Personne. Vous voyez ? Donc, il n'est pas question de dire il faut que, il n'y a qu'à. Non. C'est un choix à faire. Et l'année 2020, avec l'arrivée de ce coronavirus, nous met face à une vérité que l'on peut prendre ou que l'on peut dédaigner. C'est tout. Je ne vais pas vous en dire plus, parce que d'abord, je ne vois vraiment pas pourquoi je vous en dirai plus. Mais vous savez, tout ça, ce sont donc des choses par rapport à la lumière. Voilà, la lumière, je ne ferme pas mes volets, je veux avoir des lumières stroboscopiques, comme vous dites, etc. Bon, ça, c'est votre choix. Mais il y a eu quelque chose de bien plus grave et de bien plus destructeur et de plus sournois. C'est de mettre dans l'eau du fluor des choses qui nous empoisonnent à petit feu. J'ai entendu quelqu'un le dire. Qui c'est qui fait ça ?
Un esprit.
Qu'est-ce que c'est ? Quelle est la matière chimique qui est dans les eaux ?
Le fluor.
Et qu'on nous a fait prendre pour un médicament pour soigner nos enfants.
Oui, tout à fait.
Le fluor. Le fluor. Tout bêtement. Le fluor est un poison insidieux, invisible, qui va faire quoi ? Eh bien, qui va tout simplement opacifier la glande pinéale. C'est-à-dire qu'au lieu que cette glande pinéale soit transparente, qu'elle laisse passer la lumière ou qu'elle l'émette, eh bien, la glande pinéale est pleine, il y a des cristaux, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de circulation de sang, le sang n'y circule plus. Les cristaux qui sont dedans sont complètement opacifié, calcifié, et c'est terminé. Donc, vous voyez, moi, j'ai fait comme les autres. Quand mes enfants étaient petits, j'ai acheté du fluocaryl. Tellement persuadée qu'on voulait le bien de mes enfants.
On en prenait en comprimé aussi.
Comment ?
En comprimé.
Et comprimé aussi. Bon. Eh bien, le fluor est un poison qui est en train de nous démolir au niveau spirituel même. C'est grave. Mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Moi, je vous dis, c'est une information, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez croire le contraire, c'est votre problème. Moi, je l'aurais dit. Mais ce fluor, d'après vous, quand est-ce qu'il a été, qu'il a commencé à circuler ? Vous allez être très étonnés.
En 45.
Au moment de la... même un peu avant.
Avant dans les camps, oui.
Par les Russes et les nazis.
Oui.
Et oui, ça fait bien de parler de ça ici. Hein. Oui, j'y peux rien, je ne l'ai pas fait exprès. Ils ont commencé à fluorer les eaux avec du fluor... oui, fluoré. De façon à rendre les gens dociles et pas qu'ils se révoltent dans les camps de concentration.
Voilà.
Et les Allemands en ont parlé aux Russes, qui ont fait pareil dans les goulags et tout ça. Vous le saviez ?
Oui.
Voilà. Donc vous voyez que même dans l'eau qu'on boit, il y a quelque chose qui se fait à grande échelle, parce que toutes nos eaux sont fluorées.
Et les eaux robinées.
Les eaux du robinet. Mais même certaines eaux, il faudrait pouvoir avoir vraiment l'analyse totale. Vous voyez ? Et ça, personne ne s'en doute. Personne ne s'en doute. Et il y a, par exemple, pour vous donner un exemple qui est quand même assez percutant. Attendez, je l'ai marqué là. Ça, c'est quelqu'un qui me l'a dit il n'y a pas longtemps. Dans un port de sardinier du Maroc, qui s'appelle Safi.
Safi, oui, tout à fait.
Vous connaissez ?
Oui, mais ma sœur y était enseignante, Safi.
Ah ben ça, alors
oui, oui.
Oui, là, c'est quelque chose que je sais depuis pas longtemps, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore intégré. À Safi, entre Casablanca et Agadir, je lis ce que je connais.
Il y a des poteries.
Il y a des mines, on extrait du phosphore. Bon. Et c'est là que se fabrique aussi l'acide phosphorique et sulfurique. Il y a des rejets pour ça, pour travailler tout ça. On a besoin de fluor. Les rejets de phosphate contiennent du fluor. Je lis, hein, parce que... Et des effluents gazeux. Qu'est-ce qui se passe dans les populations à côté ? Les dents se déchaussent, même celles des dromadaires. Ça va nous faire rire, mais enfin, ouais. Donc le fluor, qui est censé aider nos enfants à guérir des caries ou les éviter, à Safi, au Maroc, ce qui est les résidus de ces mines de phosphore, tous les gens ont des dents déchaussées et même les dromadaires. Ça nous fait rire. Un peu jaune. Oui. Alors, que faire ? Vous allez me dire, mais moi, j'y peux rien. Moi, j'y peux rien, je ne vais pas aller trouver le maire ou tout ça. Il faut le savoir, c'est tout, qu'on nous empoisonne à petit feu. Et d'un autre côté, la glande pinéale craint donc ces choses-là. Elle craint le fluor. Les glyphosates, elle craint tout ce qui est calcium aussi, parce que ça aide à calcifier plus la glande elle-même. Voilà. Et évidemment, tout ça, elle crée aussi tous les produits chimiques qui nous sont envoyés du ciel par les chemtrails. Je sais bien qu'il y en a la moitié d'entre vous qui regardent quelquefois le ciel, ce beau ciel bleu dans lequel sont des traînées blanches que vous prenez, vous, pour des condensations d'avions. C'est que vous n'avez pas beaucoup réfléchi ou pas bien étudié la chose. Ce sont des avions spéciaux qui déversent dans l'atmosphère des produits chimiques. Et si je vous disais ce qu'il y a dans ces produits chimiques, vous auriez les cheveux qui se hérisseraient. Dont de l'aluminium, dont du barium, du strontium, entre autres. Hein ? Et l'aluminium étant aussi, pour la glande pinéale, un poison,
pour notre cerveau aussi, et regardez la prolifération des maladies d'Alzheimer. Voilà. Mais il vaut mieux rien savoir. C'est bien mieux de rien savoir, comme ça on peut dormir tranquillement, les volets ouverts, et on est content. Vous voyez que c'est pas facile non plus d'aller au fond des choses et de voir les choses, ces mensonges dont on nous abreuve tout le temps. Oui. Et pourtant, c'est là. Oui. Alors, après, vous allez me dire, un endroit où il y a beaucoup de fluor aussi, c'est dans le Prozac. Or, il y a beaucoup d'enfants qui sont soignés au Prozac. Là, il y a une dose de Prozac plus supérieure encore que là. Et quant à la dernière invention qui est en train de se mettre en place, c'est la 5G. La 5G est en train d'asphyxier la Terre, va asphyxier la Terre. Et on a remarqué que des oiseaux sont tués en plein vol. Et que des arbres se sont défoliés du côté où étaient les antennes. Donc, il y a des arbres, ils ont des feuilles encore d'un côté, tout le reste est tombé. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça va encore agir pour détruire notre glande pinéale qui, je le répète, est notre passeport spirituel pour l'ère du Verseau. C'est tout. Je ne veux pas insister plus là-dessus. Ça ne servirait à rien. Je vous demande maintenant de vous servir d'Internet et d'aller vérifier si ce que je vous dis est vrai. Mais je vous en supplie, allez vérifier, ne me croyez pas sur parole.
Parce que ça serait pas bon pour vous de me croire. Oh non ? Comment ? Ah voilà, alors,
si, écoutez, faut quand même le faire. Anki, c'est le dieu sumérien, c'est-à-dire qu'il y a plus de 6000 ans avant Jésus-Christ. Eh bien déjà, le dieu sumérien Anki, qui était l'ami des hommes, contrairement à son frère jumeau, qui était l'ennemi des hommes, son frère s'appelait Anlil, lui s'appelait Anki. C'est lui qui a voulu éviter le déluge, mais bien longtemps avant l'Atlantide. Hein. Et vous le voyez ici, en train de tenir des pommes de pin, parce que lui, ce qu'il voulait, c'est faire de l'homme un être pensant, responsable, et il voulait, lui, que chaque être humain prenne conscience du potentiel divin qui est en nous. Potentiel divin, donc cosmique. Donc vous voyez, 6000 ans avant Jésus-Christ, le dieu Anki, qui voulait du bien aux hommes, eh bien, il montrait ses glandes, ses pommes de pin. Vous voyez ? Donc c'est pas nouveau. Ce que je vous dis là, c'est pas nouveau. Pourquoi on ne nous en parle pas à l'école ? Oui, je vous le demande. Nous allons devenir tous des citoyens. Nous allons tous avoir notre rôle à jouer dans la société. Pourquoi on ne nous dit pas quel serait le meilleur moyen de ne plus être des esclaves, de ne pas être dociles ? Je vous pose la question. Vous y répondez comme vous voulez. Hein ? Moi, je n'ai pas de... Quelle heure est-il ?
Regarder ce que j'ai
fait. Ah oui, ah oui, oh oui, 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 il faut que j'en fasse.
Excusez-moi. Il y a quand même, alors je vous disais que dans la glande pinéale, il y a des cristaux. Au centre de la glande pinéale, il y a une cuvette, une sorte de cuvette où passe le sang et tout ça. Et le reste ressemble à. Il y a des cristaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ces cristaux, plus on en a, plus on va pouvoir aussi, là je vous ai parlé simplement de l'illumination, mais un autre côté très important de la glande pinéale, c'est qu'elle nous fait voyager dans les autres dimensions. Elle nous ouvre à la transcendance. Et alors on dit quelquefois que les vieux, quand on est vieux, on est vraiment foutu. On a des mal aux articulations, on a le cœur qui bat la breloque, etc. Eh bien, c'est pas vrai pour la glande pinéale. Plus on vieillit, plus les cristaux deviennent nombreux. Et c'est pour ça que finalement, on a quelques chances quand on a 90 ans, et peut-être plus, d'aller voir l'illumination, Christiane, tu vois. C'est pas encore foutu, hein. Et les autres aussi. Donc vous voyez, c'est quand même curieux. Et ces cristaux, c'est des cristaux bien particuliers. C'est des cristaux d'apatite. Est-ce que vous connaissez l'apatite ? Ah ouais, ben vous avez l'air d'en connaître un rayon. Hein ? Voilà, alors voilà à quoi elle ressemble. Vous voyez, ça c'est voilà. Voilà une apatite, ici. Elle peut être rose, elle peut être... voilà. Et ça, c'est le monsieur en question qui avait ça chez lui, puisqu'il s'occupe beaucoup de minéraux. C'est lui qui a photographié une apatite et qui l'a mise ici pour vous. Puisque c'est vous qui en profitez. Voilà. Et voici ici de l'apatite dans sa roche première. Vous voyez ? Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore autre chose, peut-être pas. Voilà. Alors là, vous voyez le cristal ici, les cristaux d'apatite qui sont. Oui, on les voit bien, les cristaux ici. Là, il y a vraiment un véritable cristal d'apatite. Je dirais, un vrai troupeau d'apatite, là. Hein. Donc, l'apatite va être la glande, je veux dire le minéral, qui va permettre à la glande pinéale, la glande pinéale est composée de ça, voilà. Donc, vous voyez que si on va après prendre du calcium, du fluor et tout, ça va opacifier cette glande et elle ne servira à rien. Alors, on peut aider quand même quand on n'est pas trop abîmé, si je peux dire, on peut arriver à nettoyer. Alors voilà, là aussi j'en ai une ici, là. Vous voyez, c'est très beau. On peut l'aider, il y a quelque chose qu'on peut faire, quand même, c'est faire attention à ce qu'on mange. Vous voyez ? Qu'est-ce que c'est qu'il faut qu'on mange ? Alors, je vous donne au hasard certaines nourritures, il faut quand même bien que je vous donne des petites choses, quand même. Hein. Voilà. Alors, ce qui... Il faut que nous arrivions à synthétiser la fameuse sérotonine. Puisque c'est la sérotonine qui va agir sur la glande pinéale et la mélatonine. Mais la sérotonine elle-même, elle ne vient pas de comme ça, n'importe quoi. Elle vient d'un acide aminé, dont vous avez peut-être entendu parler, moi je ne le connais pas tous, qui s'appelle la tryptophane. Hein, il y en a peut-être qui connaissent. Alors tryptophane, pour les gens qui écrivent, ça s'écrit T-R-Y, P-T-O-P-H-A-N-E. Voilà. C'est un acide aminé qui va permettre à la sérotonine d'aller après aider la pinéale à créer de la mélatonine. Vous voyez, c'est toute une chaîne de choses. Alors, où c'est qu'il y a de la tryptophane ? Eh bien, voilà. Je vais vous le dire, il y en a dans les amandes, les bananes, les piments, le riz, les pommes de terre, les aubergines, les avocats, les haricots. Je sais pas. Les lentilles. Et des tomates, les dattes, les noix. Alors, oui, mais attendez, oula. Alors, les amandes, les bananes, le riz. J'ai oublié les piments. Les piments. Les pommes de terre, les aubergines, les avocats, les haricots, les lentilles. Et les fruits comme les tomates, les dattes, les noix et les prunes, et tous les aliments de la famille des oméga 3.
Dis-nous plutôt dans quoi il n'y en a pas.
Bah, écoute, tu chercheras, tu feras la liste. Qui facilite l'action de la sérotonine au niveau cellulaire. Oui. Mais, alors, ce qu'il faut éviter, c'est les boissons gazeuses. C'est ton problème.
L'eau gazeuse, par exemple.
Oui.
Ah, alors après, oui, ben, je ne sais pas.
Et la salle bêta, c'est toléré.
Oui, mais vous pouvez prendre aussi de l'eau de Vichy ou de la Saint-Yor. Pourquoi la pas
oui, mais... oui.
Alors, évitez, bien sûr, dans les produits animaux, les viandes, le poisson, qui souvent ont des taux de mercure trop, trop forts. Et le mercure aussi est un poison de la glande pinéale. Voilà. Donc, pour en arriver, si vous voulez, à comprendre mieux cette glande pinéale, c'est l'heure ?
Quasi.
Comment ?
Oui.
Ah bon, si, oui, c'est l'heure. C'est que la glande pinéale nous permet d'entrer dans les champs spirituels, c'est-à-dire d'aller dans d'autres dimensions. Les études quantiques de ces dernières années, hein, depuis longtemps d'ailleurs, nous disent, et vous l'avez certainement entendu parler, de la théorie des cordes.
Oui.
Les cordes, la théorie des cordes nous dit que nous avons 11 univers, qu'il y a autour de nous 11 univers, et que ces univers, nous pouvons y aller grâce justement au don que nous octroie la glande pinéale. Elle nous ouvre le monde des autres dimensions. Et c'est la glande, donc, des voyants, des médiums. Nous en avons une, et ce soir, au moins connue, et il y en a peut-être plein dans la salle, n'est-ce pas ? Et que, justement, ces gens-là ont réussi, si vous voulez, à aller voir derrière les apparences les choses de l'invisible. Et donc, par exemple, voir les décédés. Mais ce qui est peut-être encore plus intéressant pour certains, voir les décédés, ça peut être intéressant, c'est ce que vous allez avoir tout à l'heure. Et c'est déjà pas mal. Mais nous faire voyager dans la transcendance, c'est-à-dire dans d'autres mondes, aller visiter d'autres planètes. Si nous sommes en symbiose avec les énergies de Mars, par exemple, nous n'avons pas besoin du tout d'y aller avec des fusées. Si nous étions vraiment nos fréquences, vibratoires, pouvaient un jour être en symbiose avec celles de Mars, nous serions déjà sur Mars sans avoir besoin d'y aller. Vous voyez ? Et c'est ainsi d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent raconter des histoires de ce qu'ils ont vécu sur d'autres planètes. Vous voyez ? Et ça, alors évidemment, nous, on a plutôt tendance à dire que c'est du charlatanisme. Ben évidemment, puisqu'on ne le vit pas. Mais avant de dire que c'est du charlatanisme, encore faudrait-il peut-être quand même, et les écouter, et savoir de quoi ils parlent. J'en termine donc, vous voyez, que cette glande pinéale, vous voyez, si on est parti de la dame à la licorne, et regardez que maintenant nous sommes en train d'appartenir au cosmos, et de pouvoir voyager dans les onze univers qui nous entourent, c'est quand même pas rien, vous voyez. Et on a fait ça par petits bouts, voilà. Savez-vous, mais sans doute pas, que, si vous devez certainement savoir, et là je m'arrêterai là, il y a 4 grands archanges. Ces 4 grands archanges ont nom Gabriel, Raphaël, Uriel, que personne ne connaît. Qui connaît Uriel ici ? Ben, ils ne sont pas nombreux quand même, hein. Uriel. Et bien entendu, Michael. Oui, Michael. Enfin, Michel. Alors, vous allez me dire, ben, cette pauvre Uriel, il a été quand même bien malmené, parce qu'on l'a supprimé des 4 archanges, on en a mis d'autres à la place. C'est le cas au Puy-en-Velay. Vous avez peut-être vu ce grand menhir qui s'appelle le Mont Aiguille. Il servait, ce Mont Aiguille, d'initiateur pour les gens qui venaient au Puy-en-Velay, qui voulaient poursuivre soit vers Compostelle, soit vers Jérusalem. Et quand ils ne pouvaient pas aller plus loin, soit parce qu'ils étaient malades ou ils n'avaient plus d'argent ni rien, on leur disait que gravir le mont Aiguille, en méditant sur chacun des archanges, pouvait leur servir, être à peu près l'équivalent. Donc, Gabriel, c'est celui d'en bas, c'est celui qui s'appelle la force de Dieu. C'est le fort, c'est lui qui soutient les choses. Raphaël, c'est le guérisseur. J'ai ici les couleurs de Raphaël,
qui est le grand guérisseur, c'est-à-dire vert, émeraude et or, que je porte tout le temps sur moi. Après, il y a Uriel, ou Uriel, qui est l'archange de la connaissance. Et celui-là, vous voyez, bon là, hein. Et Michael, qui pose la question, qui est comme Dieu ? Voilà. Donc, Uriel, pourquoi je vous parle d'Uriel ? C'est parce que son sceau, il se fait connaître par la licorne. Donc, avant de vous quitter, je vous donne les paroles d'Uriel. Mon sceau vous relie aux forces créatrices de l'univers, à la mère divine et les sœurs de lumière, aux devas, aux élémentaux et anges de la fantaisie cosmique pour une meilleure compréhension et application de vos outils créatifs, dont la pinéale, n'est-ce pas, à mettre au service de la source divine et de vos frères et sœurs humains. Je vous remplis de force, de joie profonde, de paix divine, d'harmonie et d'abondance dans la création. Je vous plonge dans l'action et vous permets de terminer tout projet entrepris avec grâce et harmonie. Bref, mon sceau est le sceau de l'abondance créatrice et je comblerai l'artiste qui est en vous et le façonnerai à devenir joyau de la couronne divine. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Alors, vous avez vu que j'ai apporté quelques livres. Si vous voulez en prendre, et j'offre pour cette fois un livre.